L'actualité au Mali, donc, pour commencer, une opération conjointe de l'armée malienne et de la force française anti-djihadiste Barkhane a permis la neutralisation d'une vingtaine de djihadistes dans le secteur de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Une information que l'armée malienne a publiée sur son compte Twitter sans donner plus de détails. Et puis le Canada a annoncé qu'il maintiendrait finalement sa présence au Mali jusqu'à la fin du mois d'août, notamment pour pouvoir assurer des tâches d'évacuation médicale. 250 militaires canadiens sont déployés à Gao depuis juillet 2018 dans le cadre de la mission de paix des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA. Ils devaient initialement terminer leur mission fin juillet. Après l'armée canadienne, ce seront des soldats roumains qui prendront le relais dans la région. Rappelons que la MINUSMA est la mission la plus coûteuse en vie humaine de toutes les opérations de maintien de la paix de l'ONU en cours. Une église a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche à Maradi, troisième ville du Niger, selon des sources concordantes. L'incident est le fait de manifestants qui protestaient contre l'arrestation hier d'un imam. Selon les proches de Cheikh Rayadoun, ce dernier a été arrêté par la police après avoir qualifié d'anti-islam un projet de loi du gouvernement sur l'organisation de l'exercice du culte au Niger. Le texte adopté fin avril en Conseil des ministres souhaite prévenir les risques de dérives constatées dans d'autres pays et donner les moyens à l'État de contrôler les pratiques qui ont cours dans la sphère religieuse. Il doit être encore adopté par le Parlement. Et puis en plus bref, au Nigeria voisin, des hommes armés et se déplaçant à moto ont tué au moins 34 personnes dans l'État de Zamfara, dans le nord du pays. La police s'est lancée à la poursuite des agresseurs. Au Soudan, le président déchu Omar El-Béchir a été conduit aujourd'hui au parquet en charge des affaires de corruption à Khartoum. C'est sa première apparition en public depuis sa destitution en avril sous la pression de la rue. Après la lecture des chefs d'opposition, l'ancien président est reparti au bout de quelques minutes. Et puis concernant les conclusions de l'enquête ouverte par les militaires au pouvoir sur la dispersion violente du sit-in du 3 juin dernier, elles étaient attendues, ces conclusions, ce week-end, mais pour le moment, elles n'ont pas été rendues publiques. Hier, le porte-parole de la commission d'enquête a indiqué à la télévision d'État que son rapport n'était pas encore finalisé. Aujourd'hui, le numéro 2 du Conseil militaire a promis la peine de mort aux auteurs de la dispersion du sit-in qui a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. En bref, toujours, la ministre tanzanienne de la Santé a lancé une alerte à la suite de l'apparition cette semaine de cas d'Ebola en Ouganda, pays avec lequel la Tanzanie partage une longue frontière. À ce jour, la Tanzanie n'a connu aucun cas d'Ebola. En Somalie, deux journalistes qui voulaient se rendre sur les lieux d'un attentat meurtrier samedi à Mogadiscio ont été menacés par les forces de sécurité sur place, selon le syndicat somalien des journalistes. Et puis en Centrafrique, deux journalistes français travaillant pour l'agence France Presse ont été brutalement interpellés et leur matériel confisqué ou détruit. Ça s'est passé hier soir lors de la dispersion d'une manifestation de l'opposition à Bangui, une manifestation interdite par les autorités. Ailleurs dans le monde, une gigantesque panne d'électricité a plongé l'Argentine et l'Uruguay dans le noir ce matin. La cause, un dysfonctionnement dans une centrale électrique. Il faut savoir que les deux pays partagent un système d'interconnexion électrique. Par ailleurs, des régions du Paraguay et du Brésil, frontalières de l'Argentine, ont également été touchées. Et puis à Hong Kong, près de 2 millions de manifestants ont défilé aujourd'hui pour réclamer le retrait du projet de loi sur les extraditions vers la Chine et aussi la démission de la chef du gouvernement pro-Pékin, accusée d'autoritarisme. Carrie Lam a dû présenter ses excuses pour les violences policières de ces derniers jours. Hier, elle avait proposé de suspendre le projet de loi, mais cela n'a donc pas suffi. Selon ses détracteurs, le texte placerait la population de Hong Kong à la merci de la justice chinoise, opaque et sous influence du parti communiste local. Ancienne colonie britannique, Hong Kong a été rétrocédée à la Chine en 1997. Mais en vertu du principe « un pays, deux systèmes », les Hongkongais jouissent de libertés inconnues en Chine, théoriquement jusqu'en 2047.